Je vais vous montrer une image pour commencer mon étude, pour commencer le partage que j'avais envie de partager avec vous. Alors, voilà. Qui sait ce que c'est ? Un moustique, effectivement. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un moustique. Alors, c'est peut-être un moustique tigre, je ne sais pas, mais bon. Alors, qui a déjà partagé sa nuit ou bien son lit avec un moustique ? Ah, voilà, on est nombreux. Voilà. Qui a apprécié sa nuit ? Non, voilà, je ne pense pas. Je suis pas sûr qu'on en apprécie de passer une nuit avec un moustique, ou plusieurs moustiques d'ailleurs. Et en fait, tant que le moustique femelle n'a pas eu la quantité suffisante de sang, eh bien, elle revient à la charge. Elle revient sans cesse, autant de fois que nécessaire, bah, jusqu'à qu'elle soit abreuvée, finalement, de ça. Et le nombre de piqûres qu'on peut donc avoir varie en fonction eh bien, des besoins du moustique femelle. Et si au réveil, le matin, vous vous grattez de partout, c'est que pendant la nuit, vous ne lui avez pas facilité la tâche. Un moustique peut être comparé à un hélicoptère en raison de son vol stationnaire et de sa capacité à se déplacer dans toutes les directions, principalement dans les zones, et vous en doutez bien, où notre peau est à l'air libre, qui n'est pas recouverte par une couverture ou bien un vêtement. C'est des zones pour elle de traque, de chasse, en tout cas pour le moustique femelle. Et lorsque nous partageons la nuit avec un moustique, eh bien on a tous des réactions différentes. Ça ne nous laisse pas indifférents, comprenez ? Certains vont le traquer toute la nuit. Voilà, moi aussi. Voilà, sinon il y en a d'autres qui vont se cacher sous le drap de façon à ne pas l'entendre. D'autres ils vont dire, bon allez vas-y pique, prends ta dose et après tu me laisses tranquille. D'autres vont se boucher les oreilles, etc. On réagit tous en fait d'une manière différente. Et au-delà en fait, de nous empêcher de dormir la nuit, hein, pour certains, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, le moustique est aussi responsable de plus de 600 000 décès par an. C'est pas rien. À cause notamment des maladies qu'il peut transmettre, comme la malaria, la dengue, le Zika, le chikungunya, la fièvre jaune, etc. Le moustique exerce, qu'on le veuille ou non, une certaine influence sur nous et sur le monde. Et ce n'est pas vraiment une bonne influence que le moustique a, n'est-ce pas ? Alors cela m'amène à dire, peut-être à venir sur ce point-là, c'est que tout le monde influence quelqu'un. Nous nous influençons tous les uns les autres, de multiples façons. Ce que l'on mange au petit déjeuner, le style de vêtements que nous portons, les musiques que nous écoutons, les films ou les séries que nous regardons. Nous nous influençons tous les uns les autres pour des questions importantes, notamment sur, pour nous chrétiens, eh bien, la façon peut-être de prier, de louer, d'adorer Dieu, la manière dont nous entretenons notre relation personnelle avec Dieu ou en communauté. Et ma vie personnelle a aussi été influencée par beaucoup de personnes, par mes parents, mes amis, des professeurs, mon épouse, des collègues de travail, etc. Des frères aussi, des sœurs dans l'Église. Et tout comme j'ai été influencé par les autres, eh bien, ce que je fais, ce que je vais faire, ce que je vais dire, va aussi influencer inévitablement d'autres personnes. Et que ça soit en bien ou en mal. Alors le titre de mon partage ce soir, c'est plutôt une question. Est-ce que mon influence contribue à construire ou bien à détruire ? Influence constructive ou bien destructive ? Paul va dire à un moment donné à l'église de Corinthe, il va s'adresser à eux et va dire « Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'église de Dieu. Agissez comme moi, qui m'efforce en toutes choses de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. » On est dans cette thématique donc de ma relation avec les autres. Et je crois que d'une certaine manière, nous influençons les autres. Selon ce que nous avons, eh bien, pas subi, mais toutes les influences que nous avons pu avoir, eh bien, peuvent, au travers de nous, eh bien, avoir des répercussions sur les relations que nous avons avec les autres. Dans le contexte ici de sa lettre, Paul, donc au début de sa lettre aux Corinthiens, il va la consacrer à remettre de l'ordre parce que, ben, il y avait des querelles. Bon, une église sans querelles, est-ce que ça existe ? Je ne pense pas. Je pense que ça, il y a toujours des choses à dire, des choses à faire. Et il a été informé en fait par les gens de la maison de Chloé que dans l'église il y avait donc des clans qui se formaient. Et le problème, c'est que chaque clan revendiquait l'autorité et l'enseignement d'un apôtre particulier. Moi, je suis pour Paul, ou moi pour Apollos, ou moi pour Pierre, ou encore, et là c'est peut-être le summum, moi je suis pour Christ. Il y avait donc des disputes, des tensions, et Paul en fait s'attelle ici à repositionner bien Christ au centre de la foi, à remettre un peu d'ordre, et il va répondre à un moment donné, après tout, que sont donc Apollos et Paul, des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Et c'est aussi dans ce contexte qu'il va écrire, on le connaît très bien ce verset, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Place importante dans la vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu. Donc dans sa deuxième partie de sa lettre, de sa première lettre, Paul va prendre le soin ensuite de répondre à des questions qui sont posées par les chrétiens sur des sujets qui sont précis et qui gravitent finalement dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église, comme le mariage, la Sainte Cène, les dons du Saint-Esprit. C'était à la fois donc des points de doctrine que des questions en relation avec la conduite chrétienne sur le plan individuel et collectif. Dans l'Église de Corinthe, on sait que Paul, c'est lui le fondateur. Et s'il existait de telles problématiques au sein de cette Église, c'était en partie à cause de l'influence de ses membres, mais aussi de la réputation et de l'influence de la ville de Corinthe. C'était la plus célèbre des villes du sud de la Grèce à cette époque. Corinthe était comme un centre commercial et culturel, mais aussi connu pour le péché qui florissait sous toutes ses formes. Et lorsque Paul arrive pour fonder l'église à Corinthe, il va prêcher l'évangile dans les synagogues, c'est-à-dire auprès des juifs de naissance, mais très peu sont réceptifs à ce qu'il va apporter. Donc il va décider d'aller prêcher à qui ? Aux païens. Bingo, ça fonctionne. Ça marche parce que y en a beaucoup qui se convertissent. Et là, j'ouvre juste une parenthèse parce que si ça a marché pour Paul, moi je pense que c'est parce que déjà, il était pleinement dans le plan de Dieu. Il savait ce à quoi Dieu l'avait appelé et il entrait pleinement dedans. Il avait saisi la mission que Jésus lui avait donnée lorsqu'il a reçu la révélation. Il sait donc ce qu'il doit faire, pardon, et il le fait. Et c'est pareil pour nous lorsque nous savons ce que Dieu met sur notre cœur. Je dirais un appel, peut-être un service, peut-être voilà, une action, quelque chose. Si on sent vraiment que c'est de la part de Dieu, eh bien, on le sait, eh bien, on le fait. On obéit à ce que Dieu nous dit et il faut que ça soit conforme, bien entendu, à la parole de Dieu. Alors ça marchera tellement bien pour Paul que l'on finira par le surnommer l'apôtre des païens ou l'apôtre des gentils. Les membres de l'Église étaient donc pour certains d'origine juive et pour d'autres d'origine païenne. Un peu comme nous, aujourd'hui, dans nos églises actuelles, avec des cultures, des arrière-plans de vie, des pratiques différentes, etc. Mais ce qui avait réuni ces chrétiens de Corinthe à former cette Église, c'était leur foi en la personne de Jésus-Christ. Peu importe qu'ils étaient juifs, turcs, macédoniens, éphésiens, peut-être poitevins, je ne sais pas, mais tous avaient accepté Christ dans leur cœur. C'est Jésus-Christ qui les avait réunis, qui les avait libérés de l'esclavage du péché. L'Esprit de Dieu vivait en eux pour qu'ils puissent vivre une vie nouvelle. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourtant, Paul ici, eh bien, les reprend en leur disant, mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église. Et j'en viens donc à mon premier point. Les points, c'est très simple, j'en ai que deux. Premier point, ne soyons pas une occasion de chute pour briser ou pour détruire. Lorsque Paul parle ici d'occasion de chute, bien entendu, ce n'est pas une chute d'eau, hein, même si on ne voit pas très bien l'image, mais ce n'est pas non plus de faire tomber par terre quelqu'un, d'accord ? J'ai fait du foot quand j'étais jeune et je jouais le poste de libéro, pour ceux qui connaissent, arrière central. Et quand je voyais qu'un joueur de l'équipe adverse venait, que je n'arrivais pas à le stopper, je m'attelais à courir derrière lui et je lui fauchais les jambes. Alors je me confesse, je ne le fais plus, c'était mon ancienne nature, c'était mon ancienne vie. Et sans toucher le ballon, hein, je lui fauchais les jambes sans toucher le ballon, c'est ça le pire. Dans d'autres traductions, ici, lorsque Paul parle donc de ne pas faire, pardon, de ne pas être une occasion de chute, on trouve dans d'autres traductions, donc dans la version par exemple d'Arby, ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Assemblée de Dieu. Une pierre d'achoppement, c'est un obstacle, une difficulté qui peut faire échouer. En français courant, on a vivé de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'Église de Dieu. Et enfin, en parole de vie, ne faites tomber personne dans le péché par votre façon d'agir, ni les Juifs, ni ceux qui ne sont pas Juifs, ni l'Église de Dieu. Ce qui est intéressant pardon, aussi, c'est que le mot grec, donc aproskopos, ça veut dire sans reproche, c'est-à-dire sans scandale. Et ce que Paul est en train de dire finalement aux Corinthiens, c'est que leur comportement doit être donc irréprochable et ne doit en aucun cas être un obstacle ou une difficulté pour les autres qui sont sur le chemin de la foi. Le comportement et l'attitude de certains, malheureusement, chrétiens dans cette église de Corinthe, eh bien influencer les autres membres un peu à la manière du moustique. Le problème qui se pose ici concerne donc les aliments et notamment les viandes sacrifiées pour les idoles. Et la question était donc claire, qui a été posée à Paul. Est-ce que l'on peut manger ces aliments qui proviennent de sacrifices pour des idoles ou pas? Donc ça se tient, surtout dans les contextes de l'époque, ça se comprend. Pour les Juifs, cette nourriture était impure et de nombreuses lois dans l'Ancien Testament précisaient que ce qu'ils pouvaient manger et ce qui leur était interdit. Cette règle était ancrée eh bien, dans leur culture, dans leurs habitudes, dans leur esprit, c'était présent, c'était bien là. Le prophète Daniel, d'ailleurs, par exemple, qui sera retenu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, sera retenu captif avec ses amis au palais du roi Nebuchadnezzar, en Babylone, va être forcé à manger la nourriture du roi. Mais il va prendre position pour cela. On lit dans Daniel chapitre 1, verset 8, « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Et dans l'histoire, on apprend que, eh bien, malgré tout, parce qu'il va décider de manger que des légumes, eh bien, il se portera bien. Parce qu'ils avaient cette crainte-là qu'ils voilà, allaient se flétrir, ils n'allaient pas rester en bonne santé, mais Dieu a pourvu et Dieu a agi autrement. Le respect donc de cette règle et d'autres encore était tellement imprégné en eux que Jésus même finira par dire un jour « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Certains chrétiens avaient donc cette connaissance, savaient, et ils n'osaient pas manger cette nourriture sacrifiée aux idoles, alors que d'autres, dans l'église de Corinthe, eh bien, le faisaient sans problème et en bonne conscience. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 25, il nous est dit, c'est Paul qui dit ça, vous pouvez manger de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par scrupule de conscience sur l'origine de ces aliments. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que tous ces viandes sacrifiées aux idoles étaient vendues au marché, donc on achetait ça assez aisément, facilement. Et Paul parlera donc ici de chrétiens avec une conscience faible et une conscience forte. Paul ici ne parle pas de la foi en Christ, mais vous savez, ce sont ces certitudes, ces convictions, ces doutes que l'on peut avoir sur certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec notre foi en Christ. Le problème, c'est que eh bien, le comportement de certains chrétiens influençait ou poussait les autres chrétiens qui considéraient donc la nourriture sacrifiée aux idoles, qui était mauvaise, eh bien, de céder, d'être bloqués ou au point d'être scandalisés, les menant donc à pécher. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 11 à 13, on lit ceci. « Ainsi, à cause de ta connaissance, Paul dira ceci, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère pour lequel le Christ a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers des frères en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. » Par exemple, aujourd'hui, certains chrétiens ne mangent pas de porc ou sont végétariens. Moi, je sais qu'on a de la famille, du côté de Marie-Valérie, qui on partage la même foi, mais ne mangent pas de porc. Et leur foi en Christ, ici, n'est pas remise en question. Ce n'est pas un problème de doctrine, ce n'est pas un problème de foi en Christ qu'ils ne mangent pas de porc. Mais étant donné que cela ne fait pas partie de leur conviction, eh bien, il ne faut pas les forcer ou bien les bloquer avec cela. Et c'est pareil avec l'alcool, certains chrétiens n'en consomment pas. Pour eux, c'est une conviction, là où nous pouvons être une occasion de chute pour eux, c'est par exemple de les inviter en étant conscient de cela, je parle pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool, de les inviter en étant conscient de cela, à prendre l'apéritif chez nous et en leur faisant comprendre que, eh bien, on a oublié d'acheter du jus. Et bah, bizarrement, on n'a plus d'eau à la maison et que les seules boissons que nous pouvons leur servir, c'est de l'alcool. Là, on est une occasion de chute pour eux. Et cela ne se limite pas qu'aux aliments ou qu'à la nourriture. Hein. Parce que Paul dit bien que rien dans votre comportement ou votre façon de vivre soit une occasion de chute pour les autres, chrétiens ou non. Si l'on est conscient qu'une attitude ou qu'un geste peut être une occasion de chute pour les autres, eh bien, peut-être que nous ne devrions pas le faire. Paul dira « Tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. » Un chrétien est vivant parce qu'on sait que Christ est vivant, c'est pour ça que nous sommes vivants. Un chrétien marche parce qu'il est vivant, il est en marche. Et dans notre marche avec les uns et les autres, dans le chemin que Dieu a tracé pour nous, nous avançons ensemble. Ce qui implique que nos comportements, nos attitudes ne doivent pas empêcher l'autre de ralentir, ou voire même de l'arrêter de progresser. Comme le moustique, avec peut-être sa taille insignifiante, eh bien, comme sa taille insignifiante nous influence, de même nous influençons les autres par des petites choses, des petites paroles, des petits gestes, des petits comportements, des petites attitudes. Alors veillons avec persévérance à ce que nos comportements ne soient pas des occasions de chute pour les autres. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que mon comportement aujourd'hui et l'influence qui en découle est une occasion de chute contribuant à briser ou à détruire ? Deuxième point, soyons, et bien là c'est la bonne nouvelle et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, soyons une occasion de croissance pour bâtir ensemble. Au sujet de ce problème, de savoir ce qu'il faut manger ou pas, les viandes sacrifiées aux idoles, Paul va volontairement orienter les chrétiens de Corinthe à se tourner vers l'amour de Dieu, plutôt que de s'appuyer sur la connaissance. Il dira au chapitre 8 et au verset 1 à 3, « Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous, c'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. » Et là, il intègre l'amour. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Amen. Pour Paul, ce qui compte, ce n'est pas de forcément savoir si les chrétiens avaient la connaissance ou pas, s'il fallait manger, s'ils viennent sacrifier ou pas. Mais pour lui, ce qui était important, c'est l'amour de Dieu qui doit être le catalyseur dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur façon de vivre envers les autres. Et l'amour de Dieu, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, fait toute la différence. Si nous sommes libres grâce à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, alors ne cherchons pas à enfermer les autres dans nos raisonnements, dans nos connaissances pour les convaincre, mais peut-être laissons le Saint-Esprit faire ce qu'il sait bien faire, même mieux que nous, convaincre de péché, de justice et de jugement. Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et il va dire ensuite « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et moi, j'ai l'impression que l'on s'arrête souvent à « Tu aimeras ton prochain. » On oublie aussi qu'il y a la suite « Comme toi-même. » Aimer son prochain, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Mais ça va, ça peut le faire. Hein, on peut aimer son prochain. Mais là, Jésus il dit « En plus, il faut aimer son prochain comme on s'aime soi-même. » Alors humainement, c'est difficile, c'est compliqué. Mais ce n'est pas une option, ce n'est pas une suggestion là, ce que Jésus nous demande. C'est un commandement, autrement dit, c'est un ordre. Tu aimeras. Tout comme le premier est important, tu aimeras ton Dieu. Le deuxième l'est aussi, tu aimeras ton prochain. Ce qui est encore plus fou, et là c'est vraiment une grâce, on peut le dire, c'est que Jésus n'a pas simplement donné cet ordre et débrouillez-vous tout seul. Il a aussi prévu le moyen pour nous d'y arriver, par l'intermédiaire de la personne du Saint-Esprit, et notamment par le fruit de l'Esprit que nous sommes appelés à laisser développer et à faire grandir en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Si nous voulons être une occasion de croissance pour les autres, Notre comportement, notre attitude, notre façon de vivre doit être donc imbibé, je dis bien imbibé, de l'amour de Dieu, déversé par le Saint-Esprit, manifesté en Jésus-Christ en qui nous avons placé notre foi. C'est ainsi que nous pourrons bâtir ensemble, être des compagnons d'œuvre. Ça ne veut pas dire que l'on doit être d'accord sur tous les points. Okay ? On peut avoir des fois des avis un peu différents sur la forme, mais ce qui compte, c'est que nous soyons d'accord sur le fond. Et c'est ça qui est important. Le fond, c'est quoi ? C'est notre foi en Jésus-Christ. Notre foi en lui qui nous a réunis, par exemple ce soir, pour que nous soyons unis dans la prière, à l'écoute de sa parole. Et tout comme les chrétiens de Corinthe, finalement, ce qui les réunissait, c'était quoi ? C'était leur foi en Christ. Et lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous sommes animés du même foi en Jésus, nous devenons le corps de Christ. J'ai entendu dans les prières, famille, c'est vrai, on est aussi une famille, mais on est aussi le corps de Christ. Et Paul le dira, chapitre 12, versets 20-25. Là, je lis en traduction Semeur. En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds, ni la tête aux pieds. Je peux très bien me passer de vous. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Nous sommes appelés à grandir ensemble, main dans la main, peu importe où nous en sommes aujourd'hui au niveau de notre foi, de notre marche avec Dieu. Peu importe la manière et peu importe la forme dont nous vivons notre foi. Et pour qu'un corps puisse, vous savez, être, je dirais, efficace dans sa marche, efficace dans ses mouvements, efficace eh bien, en tout temps, tous les membres doivent être coordonnés et pilotés par un seul membre, c'est la tête, le cerveau. De même que pour que l'Église marche efficacement dans la vie, dans les projets que Dieu a formés, dans les situations compliquées comme dans les bons moments, chacun de ses membres doit être coordonné et piloté par la tête, c'est Jésus-Christ. Pour reprendre ici l'exemple de Paul, que l'on soit une oreille, un orteil, peut-être un petit pied, ou un autre membre du corps, nous avons tous besoin des uns et des autres. Et j'aime bien ce qu'il dit, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Et peut-être ce soir, tu te sens peut-être insignifiant dans l'Église. Peut-être que tu ne te sens pas utile, tu ne te sens peut-être même pas valorisé. Mais sache que dans le corps de Christ, tu as de la valeur. Sache que dans le corps de Christ, tu es nécessaire. Et si même nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas capable de voir ça, sache qu'il y a un Dieu qui est capable de voir ce que tu as au fond de ton cœur. Ensemble, pour nous soutenir les uns les autres, ensemble pour grandir et surtout ensemble pour bâtir le royaume de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons, et je pense que vous serez d'accord avec moi, a vraiment besoin de cela. D'une Église qui soit forte, qui marche ensemble, dans l'unité, d'un même cœur et d'un même esprit. Alors ne soyons pas une occasion de chute entre nous, mais soyons une occasion au contraire de croissance pour bâtir ensemble. Et même si Paul se permettait ici de manger de la nourriture sacrifiée, hein, vous vous souvenez ce qu'il avait dit, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie », etc. Eh bien, il ne va pas hésiter à renoncer volontairement à cette liberté à cause de son frère qui est plus faible dans la foi, afin de ne pas souiller sa conscience et de ne pas être pour lui une occasion de chute. Alors c'est vrai que nous pouvons profiter pleinement de tout ce que nous recevons de Dieu avec reconnaissance, parce que c'est bon, parce que c'est saint, tout ce que nous pouvons vivre dans la relation que Dieu nous offre avec lui. Et j'aime bien ce que Paul va dire à Timothée, il va dire en effet, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant, car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. Amen. On peut choisir donc de manger les aliments sacrifiés ou pas, être végétarien ou pas, boire de l'alcool ou pas, bien sûr avec modération et équilibre. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est bon pour ma foi ? Est-ce que c'est bon pour la foi de mon prochain, que je dois aimer comme moi-même? Peut-être nous faudrait-il, eh bien, de faire, j'ai noté ça comme ça, de faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils nous fassent, qu'ils nous aiment tels que nous sommes, tels que Dieu nous aime. Aimons les uns les autres, aimons les autres comme Dieu nous aime et comme Dieu les aime. Et soyons une occasion donc de croissance pour bâtir ensemble. En conclusion, Paul dira ceci, mais que rien dans votre comportement, je le redis, ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. Agissez comme moi qui m'efforce en toute chose de m'adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur salut. Paul nous encourage ici à nous efforcer, ce qui veut dire que ce n'est pas quelque chose d'acquis sur un moment. C'est quelque chose qui demande chaque jour de travailler, de tenir un comportement qui ne soit pas une occasion de chute pour notre prochain. Ça peut arriver, et de nombreuses situations eh bien, peuvent être là, de nombreuses raisons peuvent être là pour nous pousser à faire tomber notre prochain. Donc ça demande eh bien, de nous adapter en fonction des tempéraments des uns et des autres, ce qui peut être parfois un peu difficile, tout en considérant leur foi en Christ, semblable à la nôtre. Cela demande donc un effort de tous les jours, mais ce n'est pas impossible. Il faut du discernement et une vie conduite par le Saint-Esprit. Alors, quoi que nous fassions, quoi que nous demandions, quoi que nous voulions faire, peut-être demandons-nous d'abord, pourquoi est-ce que je fais ceci? Pour l'amour de qui? Et je pense que la réponse devrait toujours être pour l'amour de Dieu et pour sa gloire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, peut-être prenons le temps d'y réfléchir pour y renoncer. Dans tous les cas, notre comportement, nos actes, nos paroles, autrement dit, notre façon de vivre, devrait être pour la gloire de Dieu. Et j'aime bien ce que Jésus va dire au sujet de, vous savez, nous sommes la lumière du monde, il va dire, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Amen. Alors revêtons la nouvelle nature de Christ afin que nos relations bien avec nos prochains, notre prochain, et que nous puissions avoir, avec notre prochain, que nous puissions avoir un comportement et une attitude, donc en gestes, en paroles, qui ne soit pas une occasion de chute, mais au contraire une occasion de croissance pour bâtir ensemble. Alors ne soyons pas une occasion de chute, mais que notre influence soit constructive pour bâtir activement ensemble. Amen. Seigneur, merci pour ce temps, ce partage ensemble, Seigneur mon Dieu. Et je te prie vraiment que, oui, nous puissions, Seigneur, être ces témoins vivants pour toi, que nous puissions refléter, Seigneur, à chaque instant, chaque moment de notre vie, eh bien, ta personne, ton caractère, Seigneur mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, vraiment à laisser ton esprit agir en nous afin que nous puissions refléter ta gloire. Et je te prie que nous ne soyons pas des occasions de chute, Seigneur mon Dieu, dans les relations que nous pouvons avoir avec les personnes qui nous entourent. Mais donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être des occasions de bénédiction, des occasions de croissance pour grandir ensemble, des occasions, Seigneur mon Dieu, de réconfort, d'encouragement, Seigneur mon Dieu, et vraiment que tu nous imbibes, Seigneur, encore davantage de ton amour et de ton esprit. Merci, Seigneur, de raccompagner chacun d'entre nous et à toi seul soit toute la gloire, notre Dieu. Amen.